Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Colin Levenberg. Bonjour.
Bonjour.
Colin, tu es avec nous pour nous parler d'un ouvrage que tu as conçu de bout en bout, je dirais, et qui s'appelle « Ombre de lune ». Voilà. Est-ce que tu peux nous parler peut-être déjà de ce titre ?
De ce titre, eh ben, « Ombre de lune ».« Ombre de lune », j'espère que ça évoque quelque chose de poétique. Le titre... De la couverture, je pense que c'est pas mal pour parler de ce livre, de parler de la couverture, des couvertures. Et donc, Ombre de lune est une gravure sur bois, en l'occurrence, associée à un motif. Et effectivement, avec une évocation symbolique, poétique, que je vous laisserai découvrir...
Tu as travaillé avec plusieurs personnes hein, sur cette conception, à commencer par Marie Marquet,
voilà.
Hein, pour la création des teintes que tu as utilisées, et puis aussi Vassili pour l'impression.
Pour l'impression et d'autres personnes à l'initiative, à l'initiale, à l'origine on peut parler de trajet spectacle où j'ai suivi des nombreux ateliers d'écriture et de lecture et de rencontres avec des auteurs auxquels j'étais participant, assistant, en fait vraiment pour écouter, comprendre, entendre des gens intelligents d'une part et cultivés... aux lettres. Et donc, dans mon coin, j'ai écouté, et puis un jour, ça m'a enchanté. Et donc, je suis parti dans un acte d'écriture. Donc, je vais remercier effectivement Trajet Spectacle et Kossi Efoui comme auteur qui m'a ouvert à l'écriture principalement.
Par rapport à cet ouvrage, tu as créé toi-même les polices hein, typographiques qui sont utilisées dans dans cette conception. Est-ce que c'est un retour à l'origine du livre tel qu'on l'imagine avec Gutenberg ?
Oui et non, dirais-je. Dans une mesure, ça prend le principe de l'imprimerie effectivement dans son origine. Dans la mesure où, voulant éditer mon livre et n'ayant peu le goût de trouver des éditeurs, tellement c'est un métier cette affaire, je suis sculpteur sur bois, donc je me suis dit, j'en avais déjà fabriqué une de typographie, pour la première phrase de ce livre d'ailleurs, et du coup j'en ai refabriqué une en lettres minuscules, majuscules. Et par rapport à l'imprimerie, à la limite, c'est plus Dürer, pour ce qui est occidental, qui m'a titillé, inspiré de longue date. Et Gutenberg, en fait, l'imprimerie, le but, c'est d'aller plus vite que l'écriture manuelle. Or, à mon avis, j'aurais eu le temps d'en écrire 10 000 à la main pour en fabriquer 10 modèles originaux. Alors, je me permets de compléter ça, c'est-à-dire que le samedi 21 septembre, je présente les 10 ouvrages originaux qui sont donc des bois gravés imprimés aux encres végétales. C'est là où intervient Marie Marquet, on en reparle après. Donc c'est des planches en bois gravé. Les textes sont typographiés avec une presse que je me suis fabriquée. Étant métallier par ailleurs, les lettres sont en bois et dans l'ouvrage, il y a une dizaine d'illustrations aussi, dont les couvertures.
Alors, les textes cités dans l'ouvrage se réfèrent à quoi ? Ce sont des prises de notes, des pensées ?
Ouais, on peut dire ça comme ça. Je ne vais pas trop en dire sur le texte pour laisser la découverte aux gens. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai écrit dans une phase d'écriture, quoi. C'est vraiment un acte d'écriture qui est un moment à vivre très intense et surprenant, qui a duré un mois et demi, comme une transe, quoi. Desquels j'ai écrit de nombreuses pages et desquels j'ai fait un tri, une sélection, et j'ai choisi, il en reste 110 pages de textes et d'illustrations.
Ouais. Tu disais avoir conçu toi-même les polices typographiques. Uh-huh. Elles t'ont pris combien de temps pour les sculpter, toutes ces polices ? Ça te fait à peu près 60 pièces, non ?
Sculpter. Même plus.
Plus ?
Ouais, bien plus. En fait, pour chaque lettre, je pense ma presse permet d'écrire qu'une ligne par une ligne. Donc pour chaque lettre, je pensais combien sur un espace court d'une ligne. Combien de fois je vais utiliser la lettre A, donc je trouvais quelque chose de très court pour exprimer ça. Par exemple, abracadabra, 5A. Bah allez, je sculpte 5A. Et vis-à-vis du temps, c'est 10 minutes pièce pour une pièce facile, pour une lettre facile. Et 20 minutes, avec tous les ratés, c'est minutieux quoi, comme ouvrage. Donc j'ai fabriqué les outils... la typo, je l'ai imaginée. Bon, elle serait différente maintenant, mais je l'ai faite comme ça à ce moment. Et voilà, c'est une occupation. Ouais.
Pour ça, avec cet ouvrage, tu as demandé l'aide donc de Marie Marquet, qui est grande spécialiste des teintures écologiques, je dirais, naturelles même.
Voilà, végétales. Des techniques ancestrales, donc Marie, que je connais depuis qu'elle est arrivée dans le Diwa, et avec qui on a beaucoup de centres d'intérêt communs. C'est des techniques donc très anciennes. Moi, j'étais parti pour l'imprimer à l'encre chinoise. Donc même il y a certaines pages où j'ai conservé de l'encre chinoise, des pierres à gratter... grise et rouge, très jolie, somme toute. Et là-dessus, je commençais l'impression, donc Marie m'a dit, mais tu devrais faire... Et puis j'en avais envie aussi, d'ailleurs. Donc elle m'a donné les recettes des encres végétales. Je les ai préparées. Pareil, ça c'est... La typo, c'est une chose. Préparer les encres, c'est encore une autre élaboration qui consiste à aller chercher les plantes dans la forêt aux bonnes saisons. De les préparer, c'est assez simple, mais bon, faut le faire quand même, c'est toute une élaboration. Et surtout, après, c'est conserver l'encre, parce que vu que c'est végétal, ça va pourrir. Si c'est trop humide, ça va pourrir. Si c'est sec, ben, on peut le conserver de cette sorte. En revanche, on ne peut pas peindre quand c'est sec, donc il y a un juste milieu à trouver. C'est en permanence un équilibrage de l'humide et du sec.
Et puis, tu as utilisé un papier particulier pour ces tirages ?
Le papier, qui est la seule chose que je n'ai pas fabriqué finalement là-dedans. J'ai choisi du papier japonais, coréen. Il y a aussi du papier occidental marin et peut-être un genre de canson, quelque chose comme ça. Les dix exemplaires originaux sont tous de formats et de textures différentes. Il y a des couvertures en tissu sur les mêmes principes d'impression aux encres végétales, aux teintures végétales. Il y a des couvertures en carton, les formats, j'ai joué à l'économie de papier, ma feuille elle fait tel format, je veux rentrer tant de pages en jouant au mieux les cotes quoi, pour avoir le moins de pertes. Ça joue à l'économie de matières premières.
Et cette conception, donc, tu as aussi établi la reliure, voilà. Un travail d'orfèvre, puisque tu utilises, tu allies le bois, hein, c'est du buis, je pense.
Oui.
Et du cuivre.
Voilà. Donc la reliure, la couverture est un cartonné, c'est un collage avec illustration des deux faces. Il y a du cuir dedans pour la texture de la matière couverture. Et puis les pages, il y a papier, 120 pages par là. Et la reliure extérieure, ouais, donc il y a une bande de buis qui prend de part en part les pages et qui sont rivetées au cuivre. Ça donne un petit aspect sympa, ouais, original, on va dire. Et le dos du livre, qui est la face qu'on voit quand il est dans la bibliothèque, c'est un tressage de laine bleue et rouge aux teintures naturelles qui s'allie sympathiquement avec l'ensemble.
Que tu as créé toi-même.
J'espère.
Que tu as créé toi-même.
Oui, ouais, j'ai tout appris sur le tas aussi d'ailleurs, c'est le premier livre que je fais. J'ai très peu de références, il y a certains ouvrages qui sont reliés à la chinoise ou à l'asiatique, c'est-à-dire avec du fil apparent. Et d'autres, comme l'exemplaire que j'ai amené, qui est relié. Voilà, donc j'ai dit que je parlais pas trop du texte, mais si, je continue quand même sur la couverture, où donc il y a le titre « Ombre de lune » associé à un motif. Le motif, il a quelque chose en rapport avec « Ombre de lune » d'une part, c'est que ça serait un peu comme des reflets dans l'eau, on va dire. Essayer d'évoquer ça, avec des couleurs, en l'occurrence plutôt rouge et bleu, mais des effets d'ombre qui feraient comme si on regardait l'ombre dans de l'eau. Et par ailleurs, le motif très pictural évoque aussi bien de la calligraphie chinoise que arabe. Des motifs d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique du Nord, que des. Moi, ça m'évoque, maintenant que je suis allé au Pérou un jour, ça m'évoque le dieu Viracocha aussi. Donc, c'est Babel. Et d'ailleurs, une vision sur le monde, puisque parlons du quatrième du couverture, où en fait, c'est une carte du monde, mais retournée. C'est-à-dire le nord au sud et le sud au nord. Et c'est écrit Terra Incognita, terre inconnue. Ça, cette idée qui est de retourner le monde, c'est de prendre un point de vue différent sur le monde. Pourquoi on a décidé que le nord était au nord ?
En haut.
En haut. Là où on habite et que le sud c'était en bas, c'est bien parce que ceux qui conçoivent les cartes l'ont apprécié, préféré comme ça. Et par ailleurs, la carte c'est un grand domaine de l'emprise politique finalement sur les esprits. C'est une typicité occidentale dans l'histoire. Il me semble que cette référence vient de Marx et Hegel. La carte, c'est le principe occidental de la prise de la terre, finalement, quoi. De l'emprise de la terre. Ce que je voulais dire, ouais, par rapport à la carte et à son aspect politique, c'est que les cartes actuelles du monde, que ce soit celles que Médecins Sans Frontières nous fournit ou celles qu'on voit dans les supermarchés, disons, elle présente toujours, c'est les latitudes qui sont horizontales, il me semble.
Oui.
Elle présente toujours les latitudes carrées au niveau de l'équateur et très élargies au niveau de l'Europe et des pôles, soi-disant pour illustrer la forme ronde de la Terre. Mais en fait, le résultat, c'est que ça fait que la France, c'est un truc énorme sur une carte. Alors que si on regarde le globe terrestre, c'est plutôt modeste et petit. Je parle de la France, mais c'est aussi bien tout ce qui est dans cette zone. C'est les États-Unis, pour ce qui est au nord, hein, les États-Unis, le monde occidental, la Russie, un bout de Chine éventuellement. Et au sud, la majorité, c'est des mers, donc ça a peu d'incidence. Donc voilà, c'est quelque chose de frappant. Par exemple, sur une carte Médecins sans frontières, tiens, pour les citer, alors qu'ils devraient faire un effort, quoi, la France paraît aussi grande que le Pérou, voire plus grande d'ailleurs. Bon, bah, si on fait les superficies, le Pérou fait deux fois et demi la superficie de la France. Donc voilà, c'est des images poétiques. J'ai essayé de faire l'inverse, c'est très très difficile. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine gravure, mais donc la quatrième de couverture de ce livre, c'est une carte du monde inversée.
Et oui, il y a ce type de projection de Peters aussi qui rétablit exactement les superficies visuellement.
D'accord, oui, il y a des différents systèmes.
Voilà, et qui est plus contemporaine, hein. Ouais. Je crois qu'elle date de 1960 à peu près.
D'accord, oui. Mais elle est peu représentée, elle doit servir dans certains domaines spécifiques.
Plus dans le domaine scientifique, je pense. Et voilà. Et puis, ce travail avec Marie, comment ça s'est élaboré? Elle t'a proposé une gamme de couleurs ou alors, quelles sont les limites de couleurs?
C'est moi qui ai fait la demande en général, et je veux du rouge, du jaune, du bleu, du vert, comment on fait quoi? Ou du noir aussi d'ailleurs. Donc à chaque fois, elle m'a donné les recettes et je me suis appliqué moi-même à les réaliser, quoi. À les mettre en œuvre et être surpris par les résultats. Alors par exemple, le rouge, prenons le rouge, on prend de la garance, on fait notre mixture et on obtient un rouge qui est au premier abord très décevant parce que il est déjà c'est un peu éteint. Et c'est flouté, c'est opaque, non, c'est translucide un peu, voilà, c'est un peu translucide. Je sais plus comment ça s'appelle.
Une transparence, il est un peu transparent.
Un glacis, voilà, c'est un glacis. Oui. C'est un effet glacis, et du coup, moi je voyais pas ça comme un rouge. Le bleu, c'est presque pareil, si ce n'est qu'il est très... C'est un bleu sombre, en tant que bleu sombre, il fait très bleu sombre. Mais en fait, il y a une adaptation au fait qu'on veut telle couleur, par exemple un vert... c'est très difficile d'obtenir un... où j'ai eu beaucoup de mal, après je suis aussi dans mon coin, hein, mais j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des beaux verts. Ça veut dire qu'il faut avoir un beau jaune, or le jaune sont souvent orangés facilement, quoi, et un beau bleu, etc. Et pour revenir sur ta question, c'est comme une quête alchimique, la couleur. Du coup, finalement, quand j'ai admis que le rouge n'était pas ce que je voulais... J'ai commencé à obtenir du rouge et du rouge garance très très beau. Les dernières pages, il y a du rouge garance très très beau. Et pareil pour les autres couleurs. Quand j'ai admis que j'allais pas avoir un rouge comme celui que je vois sur Coca-Cola, j'ai obtenu une très belle couleur. Et finalement, même mon encre chinoise me paraît terne à côté, quoi. Et une dernière chose par rapport aux couleurs, le grand manque dans tout ça, c'est la couleur blanche, végétale de préférence, parce que ce qui s'applique, c'est de mettre du blanc de meudon, mais le blanc de meudon, c'est comme une farine, ça fait une purée épaisse qui ternit très très vite la couleur, voire immédiatement. Donc auquel j'ai renoncé. Et donc, moi, j'aimerais bien une couleur blanche végétale, laiteuse, pour pouvoir faire des roses et des bleus ciel, principalement.
Et avec Marie, c'est une demande que tu lui as formulée et qu'elle est en train de chercher
Ouais, je lui ai fait la remarque, mais manifestement, elle n'a jamais entendu parler blanc de végétal. Ça pourrait être des champignons aussi, mycorhizes.
Et voilà. Ces couleurs, elles ont leur constance, elles perdurent dans la durée, comment ça se passe?
On va l'appeler le grimoire de Voynich, ça doit être 14e ou 15e siècle il me semble. Ils sont faits avec en partie les mêmes pigments, et cet ouvrage... a encore toute son intensité, donc j'espère bien qu'elles tiendront. Après, c'est vrai que ça c'est mis à l'épreuve de confirmation, quoi. Mais a priori, c'est des pareils. Il y a une remarque ici. Le noir, là, je l'ai obtenu principalement avec de la gale de chêne. mélangé à de l'oxyde de fer, qui donne un noir très profond. Jean-Sébastien Bach écrivait ses partoches avec, Mozart aussi, Napoléon aussi, jusqu'au 20e siècle c'était utilisé, quoi. Et en fait, si on met trop d'oxyde de fer, et selon le type de papier, au bout des siècles, on voit des trous. C'est une amie restauratrice qui m'a appris ça. On voit des trous à la place des lettres.
Ah, le papier est attaqué par des acides.
Ouais. Donc, ça se trouve, ce sera le cas de celui-là, des originaux de celui-là.
Et puis, pour cette conception, comment as-tu pu établir une superposition de couleurs? Tu as ancré et passé plusieurs fois les couleurs les unes après les autres avec le même motif? Ou alors, tu as carrément créé sur le support même, je ne sais pas, par exemple, sur la xylographie ou la xylogravure, tu as appliqué les couleurs directement et ensuite, par transfert, imprimé celle-ci sur le papier?
Un peu des deux. C'est quand même une superposition. Ça peut être le même motif, mais répété une fois avec une couleur rouge, une fois avec une couleur bleue, et voire d'autres, ce qui est le cas de la couverture. Et le quatrième de couverture, la carte du monde, là, c'est une superposition de trois
passages.
Le bleu, jaune et un garance terni. Du coup, bon, ça fait un mélange particulier, quoi. Pour pas décaler mes superpositions, j'ai fabriqué une cadreuse sommaire et qui fonctionne bien. Après, si je prends le cas de la couverture, pour donner une idée de l'élaboration, pour en réussir une impression, j'en fais 10 ou 15, quoi. Dont la moitié de loupé, des bougés, des mauvais effets, la réaction au papier, d'un côté, de l'un ça va faire un violet, de l'autre ça fait un rouge, c'est complètement, l'acide et le basique est très influent sur les couleurs, quoi. Du coup, ça va influencer. Et pour faire 10 couvertures, j'ai imprimé 200. 200 feuilles, quoi.
Et en plus de ces 10 ouvrages originaux, ouais, il y aura une édition donc sur papier imprimé par Héraldi, de Vassili, voilà. Ouais. Et qui sera disponible à partir de quand? Tu présenteras cet ouvrage quand, justement?
Donc je vais tout présenter, les 10 originaux comme les copies par Héraldi, samedi 21 avril de 10h à 14h au 4 rue Saint-Vincent à Die, chez moi, chez Colin. Donc je présente les originaux, tous différents, format, italienne, droit, tous variés. Et les copies à la vente, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui entend parler de mon ouvrage, qui suit l'avancée de l'ouvrage. Et donc voilà, quoi, c'est un moment comme ça. L'aboutissement d'un périple, quoi.
Il y aura une suite dans ce travail pour toi? Tu as déjà envisagé d'autres ouvrages?
Ouais, sous d'autres formes, peut-être plus. Là, à chaque fois, tiens, je voulais parler d'une référence en gravure sur bois. Je parlais des références occidentales, on en parlait tout à l'heure, Gutenberg et Dürer. Mais c'est les références asiatiques et japonaises, en l'occurrence, qui sont très, très intéressantes, qui m'ont beaucoup marqué. De Hokusai, bon, tout le monde connaît, ou tout le monde connaît peut-être pas, mais la vague, c'est des images célèbres. La vague, le mont Fuji, etc. Et mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Kuniyoshi. Lui, comme Hokusai, mais à un niveau très très chouette, il superpose les couleurs avec un graphisme excellent. C'est contemporain de Hokusai, voire antécédent, et c'est l'initiateur des mangas, pour donner une idée de l'élan et de la vivacité des couleurs qu'il y a dans ses gravures. Et donc ça m'a beaucoup marqué, c'est en ça que je suis passé aussi à la couleur. Et par rapport à ce que je veux faire, une suite éventuellement, bah, si j'ai des phrases qui me viennent, j'ai toujours le loisir d'utiliser ma typo pour les graver. Mais oui, j'ai envie de faire des gravures sur bois, peut-être en plus grand format, parce que là on est sur du petit format. Donc je vais passer au grand format, et c'est un autre traitement aussi des couleurs. Ça va être chouette.
Est-ce que tu irais pousser jusqu'à la fabrication du papier pour ces prochains ouvrages?
J'y ai pensé, ça m'intéresserait, mais c'est plus une question de place. parce que je crois que ça prend de la place, c'est aussi très laborieux, simple sans doute à faire, mais plein d'étapes et de temps, quoi. Comme dit l'autre, le temps ne fait rien à l'affaire, mais en tout cas, il faut le prendre quand même.
Et puis on peut parler de cette association qui s'est créée l'automne
D'ailleurs,
dernier.
C'est-à-dire que... Oui, vas-y.
Qui s'appelle...
Source et Racine. Le livre original, l'édition imprimée des gravures, 10 exemplaires, c'est une chose. Les copies imprimées par Heraldi sont éditées aux éditions Source et Racine. Et Source et Racine, c'est une association qui s'est créée à peu près aux rencontres mycologiques de septembre, et laquelle je fais partie, et qui traite de la nature et des savoir-faire, et de l'histoire en symbiose. Donc voilà, et mon livre est bien antécédent à cette association. Mais du fait qu'il y ait eu Marie Marquet, qui fait aussi partie de l'association, et tous les éléments de la gravure sur bois, des savoir-faire qu'on peut utiliser depuis des siècles comme encore maintenant, pour leur effet graphique et sympathique. Du coup, Source et Racine, maison d'édition. C'est pas une maison d'édition, c'est association. Toute association a le droit d'éditer. Faut faire la demande à la FNIL. Et voilà, ça prend un petit délai, mais c'est tranquille, ils sont très sympathiques. Et,
ouais. Et vous avez un matricule international. Hein,
voilà. Ouais.
Et bien,
un ISBN, et voilà.
Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans cette création d'ouvrage? Et quelle est cette démarche pour toi?
Quelque part, j'ai voulu exprimer, c'est peut-être ça simplement. Et jusque-là, tout ce que j'écrivais, je l'ai brûlé. Et j'aime bien aller à l'essentiel des choses. Là, c'est un jeu aussi, si je peux me permettre, sur plein de points. On s'amuse, quoi. Des situations, des angles de vue. Et qu'est-ce qui fait que j'écris un texte et que ça me paraît... une évidence qu'il faut qu'il paraisse. aucune idée. Ça, le partage. Les personnes qui l'ont lu auparavant en prévision donnent des bons retours. Voilà, qu'est-ce qui m'a...
Motivé.
Ben, ouais, c'est l'écriture. Après, ça allait aussi à la, comme je disais, ouais, à la source des lettres. J'ai adoré aller dans l'essentiel d'une lettre. Et éventuellement, si je parle d'une page de ce livre, qui est aussi une forme d'illustration, c'est juste écrit un nu. Et en fait, graphiquement, c'est un signe, c'est un symbole. La façon dont c'est écrit. Et c'est comme, ouais, c'est l'essence de la lettre U de l'union du couple. Ouais, marrant. C'est à voir.
Donc, rendez-vous pris à partir du 21 avril.
Alors, samedi 21 avril, de 10h à 14h,
aux 4 rue Saint-Vincent.
Voilà. Ce samedi, ce week-end du 21,
oui.
Ce sera un des rares moments où les 10 exemplaires vont être ensemble, sachant que là je suis encore en train d'en terminer un. Donc ils vont être 10 ensemble, la semaine d'après ils n'y seront plus, donc c'est juste cette occasion-là qui vaut l'événement d'une parution, quoi.
Surtout, pardon.
Oui. Pas d'une parution, qui vaut l'occasion d'une visite. À domicile, c'est chez moi. Ça permet aussi de voir l'outillage, la presse, la typo. C'est pour ça que je l'ai fait dans un premier temps chez moi. Éventuellement, déjà, il y a une exposition voyageuse qui est prévue, itinérante à Paris. Et puis... Ouais, ça va voyager. Ça fera son chemin et puis vous me direz ceux qui liront, celles et ceux qui liront, vous me direez votre avis ou pas.
Et alors, les ouvrages.
Sans indulgence.
Les ouvrages imprimés, eux, ouais. Seront disponibles dans certains commerces de dits.
Je vais me renseigner là-dessus. Je fais tout au fur et à mesure. J'ai terminé d'imprimer. Je me suis renseigné sur comment on faisait paraître. C'est tout aux dernières minutes. Donc là, ça apparaît chez moi. Et après, je vais inviter la librairie. Je vais en mettre un à la médiathèque. Je suppose qu'ils acceptent. Et par exemple, à l'entrepôt.
J'ose même pas le toucher.
C'est vrai.
Ouais, j'aurais trop peur de laisser des traces sur le papier.
Ça, c'est une. C'est la partie méticuleuse de toute l'élaboration, c'est une grosse part, quoi. Se laver les mains entre chaque coup d'encre, chaque coup de pinceau, ne pas mélanger les pinceaux dans les couleurs et compagnie.
T'as les pinces à prendre le papier, justement ?
Non, c'est tout avec les doigts.
D'accord, parce que c'est tout simple. Ouais. Hein, ouais. Ce sont des feuilles de laiton fines et qui sont pliées.
Ouais.
Et donc,
exact,
ça sert de pince. Ouais. Avec les doigts, tu saisis la feuille. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on utilise en gravure.
Ouais. J'ai réussi à ne pas avoir trop de dommages sur les pages. Très très peu même.
Eh bien Colin, merci d'être venu nous présenter ton ouvrage, donc cité précédemment le 21 aux 4 rue Saint-Vincent à
voilà. De 10h à 14h.
Eh bien, merci Colin.
Merci Yves.
Et bonne soirée.
Et à bientôt tout le monde.
Hey, the bear.